Ils étaient nombreux à lui dire « mais tu es malade de te lancer dans l'entrepreneuriat ».
Entreprendre, c'est risqué. Comment je fais pour limiter le risque ?
Dans la tête de Sandra Legrand, entrepreneur et conférencière pour une interview inédite.
La première fois que j'ai vu un bilan, le bilan de ma boîte, comptable, j'ai pas compris grand-chose. Hein. Donc si vous regardez de façon très rationnelle tout ça, bah, vous vous lancez pas. Il faut arrêter de fantasmer. Et je pense qu'on ne peut pas créer une boîte pour gagner de l'argent. C'est pas la motivation principale.
16 ans d'entrepreneuriat, 13 sociétés, 2500 employés, 4 millions de bénéficiaires, 70 millions de chiffres d'affaires. Tu vas découvrir une leçon d'entrepreneuriat rare sur l'ambition et la résilience.
Les moments difficiles, j'ai envie de dire, c'est souvent ce qu'on appelle les crises de cash, ou un moment où on doute parce qu'on a pris de mauvaises décisions. Donc là, je me suis dit, t'as fait les mauvais choix, pourquoi tu as fait ça, c'est dommage. Et là, il faut un peu écouter votre, votre intérieur qui vous dit, bah, tu as envie de le faire, quoi. Je m'étais dit, tiens, voilà, quand on croit dans un projet, quand on croit dans un produit, bah, finalement, ça marche.
Dans cet épisode, tu découvriras comment entreprendre en tant que femme, comment s'affranchir du regard des autres, comment recruter et gérer des équipes, mais aussi des éléments marketing et commercial indispensables. Nous sommes heureux de pouvoir partager avec toi son parcours. Ces conseils sont une mine d'or pour les entrepreneurs qui ont faim. Vous écoutez le podcast Business Tribe.
Merci Sandra d'être là.
Merci David.
Je suis vraiment content et aussi bluffé de ton parcours. Tu es aussi auteur et dans plusieurs directions. D'ailleurs, c'est ce qui m'inspire beaucoup, les profils où il y a plusieurs cases ou multicases. Qu'est-ce qui t'a fait choisir le thème de l'ambition pour ton livre ?
L'ambition, parce que moi souvent on me disait « tiens, t'es ambitieuse », et puis je me demandais si c'était une critique ou un compliment. Parce que quand on est quelqu'un il a de l'ambition ou elle est ambitieuse, c'est une petite critique sournoise. Et quand on dit de quelqu'un « il n'a aucune ambition » ou « elle n'a aucune ambition », et je trouvais que ce mot, qui est un beau mot, l'audace, l'action, l'ambition, méritait d'être mis un petit peu à sa juste place et puis qu'on soit tous inspirés par l'ambition de sa vie.
Alors du coup, c'est quoi pour toi l'ambition ?
L'ambition, c'est aller jusqu'au bout de ses rêves, en fait, tout simplement. C'est avoir un objectif, qu'il soit professionnel ou personnel. D'ailleurs, souvent, ambition est liée à l'ambition professionnelle. Mais justement, dans le livre, on explique, je l'ai écrit avec Evelyn Plagnick-Cohen, qui est aussi une entrepreneuse hors pair, et on explique que l'ambition, c'est 360 degrés, c'est-à-dire c'est l'ambition professionnelle, personnelle, privée, amicale, pour ses enfants, pour sa famille, pour son sport, pour ses associations. Et je trouve que c'est bien justement d'être équilibré et d'avoir une ambition, on va dire, multiforme, comme l'omnicanal, hein, et se dire qu'on essaie de faire ce qu'on veut de sa vie, de prendre sa vie en main, de prendre son destin en main. D'ailleurs, Philippe Ayat le répète souvent dans 100 000 entrepreneurs, hein, prends ton destin en main et construis ta vie. Et alors, on fait des chapitres sympas sur c'est quoi l'ambition, comment ça se construit, comment on peut la mettre un peu en stand-by de temps en temps, parce qu'il y a des... Parfois, dans la vie, on fait des enfants, on se marie, ça arrive. Et donc, du coup, il faut parfois mettre en stand-by certaines choses, mais jamais la perte de vue. Et puis, on parle de co-ambition, parce qu'on est beaucoup dans le collectif, le collaboratif. On parle d'Uber-ambition, pour dire que l'ambition, ça se transforme, hein, ça se disrupte, comme on dit.
Alors justement, une personne qui nous écoute, qui se dirait, mais... Ah, moi, je manque d'ambition. Pas quelqu'un qui, justement, le voit négativement, mais quelqu'un qui pour lui ou pour elle, c'est top, mais se dit, j'aimerais en avoir plus. Comment on peut la développer, l'ambition ?
Je crois que déjà, il faut trouver des gens qui vous inspirent. Alors, c'est vrai que tes interviews sont aussi faits pour ça, mais on a souvent des modèles, et quels qu'ils soient. Hein, ça peut être des grands entrepreneurs, ça peut être des grands chefs d'entreprise, ça peut être des grands sportifs, ça peut être...
C'était qui les modèles pour toi ?
Moi, j'aimais bien... D'abord, j'ai toujours eu d'actu, hein, des Xavier Niel. Enfin, beaucoup d'entrepreneurs, en fait. Plus des sportifs, Xavier Cropiron. Geoffroy Roux-de-Bézeux m'inspire aussi pour tout son parcours. Donc c'est vrai que ce qui m'a poussé à devenir entrepreneur, c'est aussi ces gens-là. Mais j'en ai aussi chez Coca-Cola. J'ai passé 11 ans chez Coca-Cola et j'ai été inspirée par des gens que j'ai vus intervenir, que ce soit le PDG ou la directrice opérationnelle. Donc je pense que c'est dans son univers un peu proche pour justement penser que c'est accessible. Parce que si on a effectivement
que des personnes,
exactement, super high level, on va se dire c'est un peu inatteignable. Donc il faut se fixer en fait, on va dire des modèles ou des gens inspirants, mais qui nous semblent accessibles, parce que c'est comme ça qu'on construit son ambition.
Donc ça peut être de se dire, tiens, je vais chercher deux types de mentors, ceux qui sont peut-être un ou deux crans au-dessus de moi et ceux qui sont peut-être vraiment plus hauts pour aller m'enrichir de différentes manières.
Oui, absolument. Je pense qu'il faut à la fois être inspiré, puis après se dire, mon ambition, c'est ce que je ressens au fond de moi-même. Parce que je trouve qu'on fait toujours bien ce qu'on aime. D'ailleurs, je suis contre le fait de faire des Il faut être aligné sur ses valeurs, en fait. C'est ce que je dis aussi souvent. Si vous êtes généreuse, bah, il faut faire des choses autour de la générosité. Si vous aimez tel parcours, si vous aimez telle activité, si vous aimez telle ambiance, etc. Je pense que vraiment, il faut se dire qu'est-ce que j'aime faire et essayer au mieux, qui peut le plus, peu moins, faire ce qu'on aime. Voilà, parce que avant tout, moi, ma grande notion, c'est le plaisir. Je trouve que quand on prend du plaisir dans quelque chose, on le fait très bien.
Qu'est-ce qui t'a fait justement créer Kelidea ? Qu'est-ce qui te plaisait à l'époque dans cette aventure ?
Alors moi, d'abord, j'ai été un peu élevée pendant 11 ans dans une culture américaine. Alors j'ai fait McDo quand j'étais jeune, j'ai passé 11 ans chez Coca-Cola. Et donc, du coup, j'ai eu cet esprit un peu intrapreneur. C'est une notion aujourd'hui qu'on utilise beaucoup.
T'entreprends au sein d'entreprise.
Exactement. Donc avoir un peu des prises d'initiative, de gérer des projets. Donc moi, j'avais géré par exemple tout ce qui était marché du cinéma avec tous les pop-corn Coca-Cola. Donc on avait vraiment développé ça chez Coca-Cola. Et c'était les belles années 2000, les startups, donc levée de fonds, business angel, et il y avait les first Tuesday où tu avais ton badge, je cherche de l'argent, ou les investisseurs, j'ai de l'argent à donner. Donc du coup, il y avait un espèce de bouillonnement. Et là, je me suis dit, en fait, j'avais eu envie de monter une société quand j'étais jeune, quand j'étais étudiante. Je m'étais dit, tiens, voilà, quand on croit dans un projet, quand on croit dans un produit, bah, finalement, ça marche. Et donc, j'avais eu envie de monter une boîte, mais j'étais jeune, j'avais pas fini mes études. Mais cette petite idée mijotait.
Elle restait au fond.
Exactement, tranquillement. Et quand il y a eu ce déclic et ce déclenchement des années 2000, bah, je me suis dit, why not ? Alors, à l'époque, j'avais 34 ans.
Il y a des gens qui t'ont dit à l'époque, mais t'es malade, t'as la vie idéale.
Plein, parce que, en fait, d'abord, en 2000, l'entrepreneuriat n'avait pas le vent en poupe qu'il a aujourd'hui. Aujourd'hui,
c'est en train de devenir sexy.
Ah, c'est sexy. Puis si t'es pas entrepreneur, t'as loupé ta vie presque. Donc c'est pas ça aujourd'hui. Bon, mais c'est vrai que à l'époque, être entrepreneur, tu disais je quitte Coca-Cola. Ouais, mais c'est dingue. T'as une super carrière. Oui, c'est vrai. J'avais deux enfants qui avaient 1 an et 3 ans, donc plutôt bas âge, on va dire. Bon, j'avais une situation confortable. Bon, c'est un statut social, etc. Et donc, effectivement, j'en ai qui m'ont dit « Mais tu as bien réfléchi, tu es sûr, pourquoi ? T'es pas bien chez Coca-Cola, etc. » Et là, il faut un peu écouter votre intérieur qui vous dit bah, « Tu as envie de le faire, quoi. » Donc, si vous regardez de façon très rationnelle tout ça, bah, vous vous lancez pas. Voilà. Parce qu'effectivement, tout quitter pour se lâcher, puisque en plus, à l'époque, il y avait moins d'aide sur l'entrepreneuriat, moins de réseaux d'incubation, moins de choses comme ça. C'était plus risqué qu'aujourd'hui. Mais même si ça reste de toute façon un exercice risqué, passionnant, énergisant, incroyablement passionnant.
Et comment tu as trouvé l'idée ?
Ah bah, l'idée, j'ai cherché dans les marchés dont je m'occupais chez Coca-Cola, et notamment le marché du At Work. On mettait des distributeurs automatiques dans les entreprises et j'avais donc travaillé ce marché du comité d'entreprise. Et là, je me suis dit, en fait, ils ont tous besoin de quelque chose à un moment, mais ils le font dans leur coin, ils le font de façon séparée. Pourquoi ne pas mettre une centrale d'achat de produits discountés, quoi, à remiser, qui soit accessible à la fois pour les CE groupés, mais aussi pour les salariés. Et à l'époque, Internet démarrait, puisque c'était les années 2000, et je me suis dit, moi, si j'avais un outil qui me permettait de commander mes tickets de cinéma, de parc, de spectacle et des bons d'achat, je le ferai tranquillement de chez moi.
Comment tu t'y es pris, puisque ça sort justement de cette case, ce schéma de réussite, pour faire développer l'application, lever les fonds, tu n'avais pas de bagage technique.
Oui, alors le premier bagage, je trouve qu'il faut avoir quand on crée une société, c'est le bagage un peu commercial, c'est-à-dire savoir vendre ton produit. La première chose que tu fais, c'est que tu vends ton produit à tes premiers clients, à tes premiers partenaires, à tes potentiels investisseurs, à la banque, aux médias, donc... Moi, c'était mon ADN. Je suis d'une ADN commerciale et marketing. Donc, je pense que ça, c'est une valeur qui est très importante à avoir. Et si on l'a pas en tant qu'entrepreneur, il faut quand même être avec quelqu'un associé qui l'a. Parce qu'on vend tout le temps. Hein, mais même une fois que la boîte a 10 ans, vous revendez encore un certain nombre de...
Et à tes salariés en permanence.
Oui, bah, les salariés, il faut les séduire au début. Hein. Quand j'ai commencé à recruter, bah, on m'a dit, mais c'est quoi ? Qu'est-ce que vous faites ? Qui vous êtes ? Est-ce que vous avez un produit ? Est-ce que vous avez des clients ? Et tout ça, on n'avait pas. Donc, il faut quand même une grosse force de conviction pour leur dire, mais venez, ça va être très sympa, c'est une entreprise. J'ai déposé les statuts, vous allez voir, les plaquettes sont en train d'être imprimées. Enfin, voilà, le site est en train d'être créé, tout est en gestation.
Et tu auras un conseil, justement, pour quelqu'un qui se dit, moi, j'ai vraiment à bosser sur ma partie commerciale. Et il y a une personne qui vient, on a une nana là qui vient de démarrer sa boîte, par exemple. Et tu auras, je sais pas, un petit conseil ou deux à donner pour améliorer sa capacité à parler de son produit ou de son idée?
Bah d'abord, je pense qu'il faut se lancer. Il faut pas avoir peur d'y aller et de vendre son produit. Il faut être passionné, parce que quand on est passionné théoriquement, on vend bien son produit ou son concept. Il faut se former. Donc là, il y a Evelyne Planning Booster qui a monté Booster Academy. Mais il y a beaucoup d'entreprises Bah, nous, avec Yapuka, on en parlera après, bah, on apprend aussi à s'exprimer à l'oral. Donc, forcément, vendre son produit qui est soi-même. Quand
c'est pareil, ouais.
Mais voilà. Voilà, je pense qu'il faut se lancer, puis il faut s'exercer, il faut s'entraîner, en fait. Hein. C'est une question d'entraînement. C'est sûr que si vous le faites une fois, vous avez des chances de ne pas être performant. Si vous le faites 50 fois, bah, je dirais la 50e, normalement, si vous aimez ça, encore une fois, vous serez performant. Et donc, je pense que l'ADN commercial et marketing, c'est clé. Après, l'ADN technique, on l'a ou on l'a pas, ça s'apprend, mais je pense qu'on est geek, je sais pas si on devient geek, mais en tout cas, même 20 ans après d'entrepreneuriat, je pense que c'est toujours la boîte noire un peu du dirigeant. Tout ce qui est financier, j'ai envie de dire, on y arrive. Tout ce qui est commercial, marketing, on y arrive. Le digital, global, on y arrive. Mais le côté techno, c'est pas toujours évident. Moi, quand on me dit, il me faut 8 jours homme pour développer ce bouton à la fin d'un tunnel de commande, je dis, bah, pourquoi pas 2 jours? Ah ben, parce que Sandra, tu te rends pas compte, il faut ça, la base, le truc, le machin. Donc, on te perd assez vite.
Et justement, en management et en fixation d'objectifs pour les équipes, comment tu t'y prenais, toi, pour fixer des objectifs qui étaient juste, parce qu'effectivement, le technicien, l'ingénieur, il peut facilement le dire, ça va prendre 16 jours et pour lui, pendant 8 jours, il ne va rien faire.
Pour tout ce qui est techno, il faut avoir confiance dans votre directeur informatique. Moi, j'ai eu très tôt un directeur informatique qui nous a vraiment aidés.
Qui lui a la compétence.
Voilà, qui avait la compétence et j'avais énormément confiance en lui, ce qui permettait de dire, bah, si tu me dis ça, je te crois. Alors après, on peut faire des audits, on peut faire plein de choses pour vérifier, mais je pense que d'abord, il faut avoir confiance dans ses équipes en termes de management. Et puis après, moi, je fais toujours quelques vérifications, bien évidemment. Hein. Donc, quand on me propose des tableaux, quand on me propose des projets, bah, j'ai un moyen de les vérifier pour voir assez vite. Et quand les gens savent que vous vérifiez et que souvent vous tombez sur le point faible, entre guillemets, bah, ils s'appliquent encore plus avant de vous livrer le projet. Et puis, alors, je vais vous dire, la règle fondamentale, c'est de faire avec. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup tourné sur le terrain avec mes commerciaux. J'ai beaucoup été dans les rendez-vous acheteurs, que ce soit Disney, Astérix, UGC, Gaumont, etc. Parce que je voulais faire avec les équipes. Pour d'une part, être beaucoup plus crédible et légitime en disant, OK, je vous mets des objectifs ambitieux, puisque moi, je suis dans l'ambition. On n'était pas 2% de croissance, hein. On était plutôt sur 10, 15, 20% de croissance. Donc, on mettait des objectifs ambitieux, mais bon, les équipes savaient que je le faisais avec elles, que je pouvais tourner avec
elles,
voilà, sur le terrain. Et voilà, on ne fait pas une boîte dans un bureau, on fait une boîte sur le terrain.
Dans ton parcours, est-ce qu'il y a eu des moments qui ont été, on parlera après d'Yapuka,
ouais.
Mais dans quelle idée, est-ce qu'il y a eu des moments plus difficiles, de doutes, des difficultés à gérer qui ont été beaucoup plus dur pour toi à vivre et qu'est-ce qui s'est passé et comment tu les as dépassés?
Alors, du doute, il y en a toujours un petit peu parfois parce que c'est évident, hein, il y a toujours des moments. Parce que quand on est. Moi, je n'avais pas d'associé direct, donc j'étais un peu seule. Alors là, il faut être bien entouré. Hein. Moi, j'avais. Qui n'est plus mon mari maintenant, mais j'avais un mari qui m'a beaucoup accompagnée et qui m'a soutenue dans les moments difficiles et qui a toujours cru dans le concept de Calidea. Enfin,
je peux partager un moment qui était plus difficile, ce qui se jouait, ce qui se passait.
Les moments difficiles, j'ai envie de dire, c'est souvent ce qu'on appelle les crises de cash, c'est-à-dire les moments où la trésorerie est compliquée, la trésorerie, le moment où on a des financements qui diminuent et qu'il faut repartir à l'assaut, ou les moments où on a peut-être des moments difficiles de discussion un peu houleuse avec nos actionnaires, ou un moment où on doute parce qu'on a pris de mauvaises décisions. Moi, j'ai racheté 13 sociétés pendant l'aventure. Bah, y en a que j'ai loupé. Hein. Y en a deux qui n'ont pas été des gros succès. Donc là, je me suis dit, tu as fait les mauvais choix. Pourquoi tu as fait ça? C'est dommage. Tu as gâché de l'argent, tu as gâché du temps. Ça, voilà. Donc, c'est vrai que bah, il faut se dire que quand on est entrepreneur, on prend beaucoup de décisions. Donc, c'est déjà une bonne chose de savoir prendre des décisions. On peut, entre guillemets, avoir beaucoup de succès. Puis, on peut rater ou en tout cas en avoir qui sont un peu plus douloureuses, un peu plus difficiles, hein, des petites cicatrices, comme on dit. Mais l'idée, c'est de se dire que il y a toujours des solutions, qu'on va s'en sortir, que, bah, OK, très bien, on ne va pas pleurer et on ne va pas rester sur l'échec pendant 10 ans. Hein, on va aller de l'avant et se dire, bah, OK, très bien, ça, bah, qu'est-ce que je fais? Je m'en sers de leçon pour après. Et j'adore la phrase de Mandela qui dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ».
Toi, est-ce que ça a été des fois du bruit mental, le fait d'être critiqué potentiellement par des gens, des amis ou des médias ou j'en sais rien, ou pas du tout? Alors, et si oui, comment tu le gérais?
Alors, moi, j'ai comme principe de m'entourer de gens qui me font du bien. C'est-à-dire que l'oiseau noir qui me critique, celui qui m'explique que je ne fais pas les bons choix, celui qui m'explique que je vais rater, que je vais louper, que ce n'est pas ce qu'il faut faire, bah, en fait, je m'en sépare assez vite. Voilà. Parce que vous ne pouvez pas rester avec des gens qui vous expliquent que vous avez loupé. Parce que ça, vous en avez plein. Il faut rester avec des gens qui vous encouragent, qui vous font du bien, qui sont bienveillants, qui vous aident. Moi, quand j'ai créé, j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit « Waouh, super, comment je peux t'aider ?» Alors, pourquoi ils m'ont dit ça? C'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi les gens vous aident ou pourquoi les gens ne vous aident pas? Ben, très clairement, quand vous êtes de nature généreux, moi, je suis quelqu'un de généreux, j'aide beaucoup les gens, je connecte, je fais du réseau, ben voilà, la roue tourne. Hein. Donc, je dirais que sachez vous entourer des gens qui vous font du bien et laissez ceux qui vous expliquent que vous allez louper. Voilà. Parce que le regard des autres, c'est pas ça finalement qui vous importe. Alors c'est vrai qu'il y en a qui sont sensibles au regard des autres, mais je crois que ce qui est important, c'est ce qu'on ressent à l'intérieur et c'est qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et je pense que quand on est convaincu qu'on a un bon projet, bah, c'est bien de le faire. Et puis si jamais ça marchait pas, bah, comme dit Mandela, on apprendra et on changera et on rectifiera. Et puis quel est le risque? En fait, moi, j'avais surtout demandé à mon mari de rester là où il était.
Pour assurer la sécurité des
enfants. Pour assurer la sécurité un peu financière du foyer, voilà. Parce que ça, le plus grand risque en étant entrepreneur, c'est quand même un risque financier. Parce qu'on se paye toujours moins bien que ce qu'une boîte peut nous payer. C'est parce qu'on est les premiers à se sacrifier quand il y a des sujets difficiles. C'est qu'on investit aussi ses économies dans la société.
C'est important pour moi que tu parles de ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent entendre, tiens, waouh, elle vend une boîte à 70 millions d'euros de chiffre d'affaires.
On peut voir que le côté du
fantasme.
Absolument.
Et pas se rendre compte c'est quoi la trajectoire et c'est quoi le chemin au quotidien et ce que ça implique en fait.
Bah, des histoires incroyables où les mecs ont vendu 150 millions une boîte ou 1 milliard, il y en a peu, il y en a très très peu. On le sait même d'ailleurs que le salaire moyen du chef d'entreprise, c'est pas celui.
Il est
à 4000 euros. Donc il faut arrêter de fantasmer. Et je pense qu'on ne peut pas créer une boîte pour gagner de l'argent, c'est pas la motivation principale. Et on ne devient pas riche quand on vend une boîte, systématiquement. Voilà. On est riche de ce qu'on a fait. Bon, voilà, tout ce que j'ai fait pendant 16 ans chez Canal CE puis Calidea, ça m'a rendu extraordinairement satisfaite de ce que j'ai fait pour moi, pour les équipes. J'ai créé 200 emplois, j'ai vu passer 2500 personnes dans ma boîte.
Ça serait quoi des facteurs clés de réussite que tu te dirais, si un entrepreneur a ça, on a plus de chance?
Ce qu'on regarde souvent chez les entrepreneurs, c'est leur pouvoir de conviction, leur passion. Voilà, il faut être passionné, parce qu'il faut emporter tout le monde autour de soi. Leur capacité à écouter aussi, hein, parce que celui qui écoute jamais rien, c'est quelqu'un qui peut se tromper. Alors, écouter, ça veut pas dire changer d'avis toutes les 2 minutes si quelqu'un parle. Attention, c'est pas pareil.
Je peux d'ailleurs écouter.
Oui,
et à côté
de ça, garder ma direction ou l'affiner un peu ou être capable d'en tirer quelques enseignements. Donc, quelqu'un qui a la passion, qui sait écouter, qui est volontaire, qui a de la conviction, et puis qui a de la générosité. Moi, je regarde la générosité.
En gros, que ça soit en tant que collaborateur dans une entreprise ou pour un entrepreneur, t'es attentif à ce que la personne, elle est centrée uniquement sur elle-même? Ou est-ce qu'elle a le désir de contribuer à quelque chose qui est plus grand qu'elle?
Ouais, parce que je pense qu'être entrepreneur, c'est faire preuve de générosité, surtout d'ouverture d'esprit. C'est plus qu'un métier, hein, être entrepreneur. C'est vraiment un état d'esprit. Parce que d'abord, il faudra qu'on soit dans les réseaux, qu'on partage, qu'on aille se sourcer, mais qu'on aide aussi. Hein. Moi, je suis aussi, comme tu le disais, 100 000 entrepreneurs. J'aide aussi beaucoup de jeunes. Je suis mentor, je suis marraine. Je pense qu'il faut aussi passer du temps gratuitement pour certains. Alors, il faut doser, hein, parce que si on en fait trop, après, on n'est plus dans son business.
C'est quelque chose que tu fais plus depuis que tu as revendu Calidea, ou c'est quelque chose que...
Non, j'ai toujours fait. C'est-à-dire que depuis que je suis entrepreneur... Alors, chez Coca-Cola, j'avais mon réseau, mais plutôt interne Coca. Là, quand j'ai commencé à être entrepreneur, j'ai eu un réseau que j'ai construit, et j'ai beaucoup partagé. D'abord parce que on m'a beaucoup donné, hein, que ce soit mes business angels qui m'ont accompagné, des actionnaires, les investisseurs, mais aussi les journalistes, les partenaires, etc. Donc, on m'a beaucoup donné. Donc, j'essaie dès que je peux de redonner ce qu'on m'a donné. Donc, c'est d'ailleurs un cercle assez vertueux dans l'entrepreneuriat. Hein. Les gens reçoivent et donnent. Quand je prenais l'exemple de Xavier Niel ou de Marc Simoncini que tu as interviewé il n'y a pas longtemps, c'est des gens qui ont créé des écoles. Enfin, il y a toujours une façon de vouloir transmettre, redonner. Et moi, c'est vrai que la transmission, le partage, c'est une de mes valeurs ADN aussi très fortes.
Donc, tu m'as dit donc, la capacité à vendre son projet, la générosité, t'enverrais un troisième comme ça qui serait intéressant de développer?
L'intelligence. Pas forcément le côté très intellectuel, mais l'intelligence pratique. Voilà, pragmatique. Ça marche, je continue. Ça marche pas, je change. J'écoute, je m'inspire et j'apprends avec ceux qui savent. Faut être pragmatique. Moi, je dis toujours one thing a day. Enfin, il faut faire une chose par jour, il faut prendre une décision par jour parce que il faut des quick wins, comme on dit, des choses où ça avance vite. Parce qu'on peut pas être que sur des projets long terme en disant, quand j'avais des commerciaux qui me disaient, j'ai 2 contrats, alors c'est des énormes contrats, mais ils vont mettre 3-4 mois à être signés, tout ça. Je lui dis, OK, mais day to day, tu fais quoi? qu'est-ce que tu rentres tous les jours dans la machine pour que ça tourne. Ouais. Voilà, on peut pas rester sur un hypothétique deal du siècle qui signe ou qui signe pas. Faut limiter le risque, en fait. Ça aussi, c'est une donnée assez importante pour un entrepreneur. Entreprendre, c'est risqué. Comment je fais pour limiter le risque? Voilà. Comment je fais pour le maîtriser le mieux possible?
Une des raisons qui fait que je suis super content de t'interviewer aujourd'hui, j'ai, je pense, 55% de femmes dans mon audience. Je vois beaucoup de femmes qui ont tendance à se limiter elles-mêmes sur leur potentielle capacité, qu'elles minimisent beaucoup en comparaison de ce qu'elles peuvent faire réellement. Et je vois des phrases du type « je suis pas à la hauteur, je vais pas y arriver », que ça soit d'ailleurs pour prendre un poste de direction dans une entreprise ou que ça soit pour créer leur entreprise. T'aimerais dire quoi à une femme qui nous écoute et qui a tendance des fois, que ça soit conscient ou inconscient, à se dire « je peux pas parce que je suis une femme ».
Ah, c'est la phrase qui tue ça. Non, moi je crois que les femmes ont beaucoup d'atouts, si ce n'est plus que les hommes.
Alors donc justement, donne-nous les atouts, c'est quoi l'intérêt d'être une femme?
Il me faudrait une heure de discussion avec toi, David. Mais en fait, une femme, d'abord, est polyvalente. On fait plusieurs choses à la maison, on s'occupe des enfants, on s'occupe du dîner, on s'occupe du social, on s'occupe de gérer la babysitter, on s'occupe de tout.
Mais pour toi, c'est une force?
C'est une force d'être polyvalent, surtout quand on est entrepreneur. Hein. On fait beaucoup de choses. Donc savoir zapper, savoir changer de sujet, savoir traiter plusieurs sujets en même temps, ne pas avoir que j'ai ça à faire et je ne fais que ça, ne pas être monotâche, c'est une vraie force. Après, la femme est pugnace. La femme est pourquoi? Parce que je pense qu'il y a un petit complexe de se dire j'ai besoin de travailler plus pour y arriver. Et on aime les choses bien faites, donc on est organisé, pugnace, on va y arriver. Je pense aussi qu'on est généreuse, on est empathique, on est pédagogique. Hein, c'est vrai qu'on est, que ce soit avec nos enfants, on essaie de leur expliquer les choses pour qu'ils comprennent, que ce soit avec, donc avec les salariés, c'est un peu la même chose quelque part.
Pour toi, est-ce que tu pourrais dire que finalement, la clé de la réussite d'une femme, c'est pas de vouloir réussir comme un homme, mais de réussir comme une femme?
Ah bien sûr, non, mais moi je pense qu'il faut être une femme et s'assumer. Et se dire qu'on a tous les atouts pour réussir, autant que les hommes, si ce n'est plus. Et c'est pour ça, et c'est pour ça que moi, je fais beaucoup de conférences dans les clubs, en fait, de femmes ou les clubs mixités des entreprises. Vous savez, toutes les grosses sociétés ont des clubs de femmes. Je suis souvent appelée pour, comme speaker, hein, comme conférencière. Et je leur parle souvent d'ambition. Je leur parle souvent de leadership, mais je leur parle aussi de réseau. Comment travailler son réseau, le développer. Je leur parle aussi de prise de parole en public, de pitch, parce que c'est des choses que, entre guillemets, parfois elles n'arrivent pas à faire. Pas parce qu'elles n'ont pas envie, mais parce qu'elles se mettent un peu des freins.
C'est quoi les freins que tu vois le plus chez les femmes qui les empêchent de réussir?
Bah, c'est se dire, si je fais ça, ma vie privée va en pâtir. Voilà, je pense qu'il y a un vrai sujet, parce que c'est vrai qu'il y a une tranche de vie difficile pour les femmes, c'est entre 30 et 45 ans. Parce qu'on fait des enfants, ils sont en bas âge, il faut s'en occuper aussi, il faut gérer la maison, il faut gérer le mari, enfin, il y a plein de choses à gérer au même moment. Donc, on a une quinzaine un peu difficile. Après, ça va mieux, hein, moi. Je veux dire, effectivement, aujourd'hui, j'ai des enfants qui sont grands, qui ont 19 et 22 ans. Ça y est, ils sont sur la voie des études. Donc, c'est plus facile. Ils me demandent moins de temps.
C'est quoi la clé, justement, dans cette période de la 35-45?
Alors, moi, j'ai une clé, c'est je ne fais que ce qui est important et sur lequel j'apporte de la valeur ajoutée. Par exemple, être avec mes enfants, aller jouer au tennis avec eux, partager un déjeuner, m'occuper d'eux le soir en lisant une histoire, ça c'est des choses importantes pour moi. Ce qui l'est moins, c'est faire le ménage, faire à manger, et puis partager. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut dire à son mari, écoute, ça tu le fais aussi. Parce que c'est pas moi de tout faire et tout gérer. Il faut savoir dire non. Voilà, parfois, il faut savoir dire non, ça je peux pas le faire, je ne le fais pas. Et puis il faut savoir déléguer, que ce soit dans son entourage proche, dans ses amis. Et on a toujours plus de chances d'obtenir ce qu'on demande que ce qu'on mérite. Ouais, ça c'est un autre proverbe qui me suit depuis longtemps. Encore faut-il mériter ce qu'on demande.
Mais si tu le mérites et que tu oses demander, il y a plus de chances que tu l'obtiennes.
Exactement, il faut oser demander. Et il n'y a pas de faux sujet, il n'y a pas de faux complexe. On arrive, on n'arrive pas, c'est pas... Faut pas en fait se dire je vais pas demander parce que j'ai un peu honte de dire que je sais pas le faire. Voilà, on peut demander. Moi, la première fois que j'ai vu un bilan, le bilan de ma boîte comptable, j'ai pas compris grand chose. Et donc
j'ai des chiffres de partout.
Ah oui, des chiffres de partout.
Il y a un écart entre le résultat.
Exactement. De l'amortissement, des immobilisations. Je leur ai dit mais attendez, je ne comprends rien. Donc vous allez rester là, vous allez m'expliquer parce que je suis quelqu'un d'intelligent, je vais comprendre si on m'explique, on passera le temps qu'il faut, mais je veux comprendre. Et la qualité d'un entrepreneur, c'est de pouvoir quand même comprendre un maximum de choses. On n'est pas obligé d'être bon et d'être meilleur que tout le monde dans tous les sujets.
C'est capable de discuter avec la personne qui est experte.
Ouais. Et essayer de comprendre. Voilà. Que ce soit des bilans, que ce soit des chiffres, que ce soit
de la technologie. Tu penses que c'est une erreur de plein de jeunes, pas de jeunes dans le sens de l'âge, mais jeunes parce qu'ils démarrent entrepreneurs, de mettre pas assez de valeur sur les chiffres et sur la compréhension de leur bilan. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui finalement, le bilan, après 20 ans, ils ne le comprennent toujours pas.
Oui, alors moi, je suis très chiffre. C'est-à-dire que je pense, ça aussi, j'étais un peu baignée dans cette culture de la performance. Je pense qu'on ne peut pas gérer une boîte si on ne s'occupe pas de ses chiffres, si on n'a pas ses objectifs, si on n'est pas un peu rivé sur la performance des équipes, parce qu'on crée une boîte et on la développe avec du chiffre d'affaires. Et pas que du chiffre d'affaires, de la marge et du bénéfice, quoi. Donc, il ne faut pas être uniquement rivé sur les chiffres parce que parfois, il y a beaucoup de moyens à mettre. Donc, il faut travailler tout ce qui est autour. Mais il ne faut pas oublier les chiffres, c'est clé. Et ça motive. Et moi, je sais qu'il y a des tableaux blancs dans mes bureaux parce que je veux que les chiffres sortent et soient à la vue, pas uniquement dans les tableaux. On a plein de tableaux, on a plein d'outils, Slack, Trello, etc. Donc, tout est dans la boîte. Mais moi, à un moment, je veux voir le chiffre, j'entoure en rouge, je mets un smiley, je mets bravo, je mets c'est pas assez. Voilà, il faut animer.
Et ce chiffre-là, est-ce que tu le communiques ou communiquais à tout l'ensemble de l'entreprise? Voilà le chiffre d'affaires qu'on va chercher cette année.
Ah oui, ça, en fait, je pense qu'il faut emporter les gens sur l'objectif de l'entreprise.
Mais est-ce que c'était un chiffre d'affaires que tu l'exprimais?
Oui, alors chiffre d'affaires, nombre de contrats, je donnais tous les, entre guillemets, les milestones, les métriques qu'il faut. Après, je faisais aussi des gens dans une salle en disant bonnet chips coca hein, quand même et puis chacun donne ses bonnes nouvelles
tous les combien de temps
tous les mois et demi en fait pour que en fait les gens se parlent et se voient régulièrement.
Ça commence à s'organiser à 80 chacun parle.
Alors je disais vous descendez, ça va durer une demi-heure, on est stand up, c'est-à-dire on est debout, on s'assoit pas et chacun va donner dans son service une bonne nouvelle, qu'est-ce qu'il a fait depuis un mois.
Tu dis chacun, ça les, seulement les directeurs?
Alors justement pas. J'ai posé comme règle, ce ne sont pas les managers qui parlent, ce sont les équipes.
Donc, c'est une personne.
Une personne de l'équipe qui dit ce qu'elle a bien fait. Voilà, okay. Un super contrat, un taux d'utilisation, un logiciel qu'elle a mis dans la gestion des stocks qui a fait qu'on n'a plus eu de rupture, un outil pour gérer le cash. Donc ça, c'est la première règle, c'est pas le manager, mais l'équipe. Et la deuxième règle que je posais, c'est que tout le monde parle. C'est-à-dire que souvent, les commerciaux parlent souvent, les marketeurs parlent souvent. C'est visible, hein, un beau contrat, un beau catalogue, un beau site internet, tout ça, c'est très visible.
En plus, ils savent en parler.
Ils savent en parler. Mais celui qui est aux ressources humaines, celui qui est à la compta, celui qui est à l'informatique, celui qui est à la logistique, celui-là, on en parle moins. Or, c'est clé et c'est un maillon de la chaîne indispensable. Si on n'a plus de cash, ça ne marche pas. Si on a des ruptures de tickets cinéma, ça ne marche pas. Si en compta, on n'a pas les bons chiffres, ça ne marche pas. Si en ressources humaines, on n'a pas les bonnes personnes, ça ne marche pas. Donc, je disais, tous ces services un peu qu'on appelle support ou moins visibles doivent parler. Et c'est important qu'on sache ce qu'ils font. Voilà. Parce qu'une entreprise, c'est une chaîne de services, c'est une chaîne de compétences. Et tout le monde amène quelque chose dans la chaîne.
Je pense à une question qui me paraît clé. Parce que pour que tout ça, ça marche, ça demande aussi d'avoir les bons collaborateurs. Comment tu t'y prenais sur le recrutement? C'est une question qui, moi, m'intéresse particulièrement. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui ont des difficultés sur la question de comment trouver, attirer les bons collaborateurs. Comment tu t'y prenais, en fait?
Moi, j'ai beaucoup recruté. Après, c'est mes équipes qui recrutaient. Mais il y avait pour moi quelque chose qui était indispensable.
Quand tu dis que tu as beaucoup recruté, c'est-à-dire toi-même?
Moi-même. Au début, beaucoup par le réseau. Hein, parce qu'au début, les gens vous suivent parce que c'est vous qui vous connaissent, etc. Quand la boîte n'est pas encore construite, qu'elle n'est pas développée, qu'elle n'est pas encore successful, vous avez quand même du mal à faire venir les gens. Donc, vous les attirez par votre conviction. Et là, je dois dire que ce que je regardais vraiment, c'était le partage des valeurs. Voilà. Moi, j'ai mes valeurs, c'est la générosité, c'est la polyvalence, c'est l'esprit d'équipe. Donc, c'est vrai que quelqu'un qui n'était pas dans ce que j'aimais en termes de valeurs, je ne le prenais pas. Voilà, quelle que soit la compétence. Et je pense que j'ai eu raison parce qu'une ou deux fois, j'ai transigé sur ça. J'ai choisi d'abord la compétence plus que les valeurs. Et en fait, la personne a été un peu exclue d'elle-même
par le groupe.
Elle n'arrive pas à s'intégrer. Et puis, quelque part après, ça ne tient pas. Donc, c'est vrai que nous, il y a eu toujours une bonne ambiance à la société, qu'on ait été 50, 100 ou 150 ou 200, parce que les gens avaient plaisir à travailler ensemble. Moi, j'aime l'esprit d'équipe, j'aime que les gens soient généreux pour faire du mentoring, pour accompagner, pour partager. Moi, je disais toujours, je ne veux pas qu'un sache faire et soit hyper performant. J'en veux 10, j'en veux 50, j'en veux 100. Donc, celui qui ne partage pas, je n'accepte pas.
Est-ce que c'était déjà arrivé d'avoir un collaborateur? Tu pourrais pas, c'est pas flagrant que la personne elle est incompétente ou sous-productive, mais tu as un doute. Des fois, cet entre-deux, comment des fois un entrepreneur il peut savoir, tiens, c'est le moment de me séparer de telle personne parce que...
Ouais, c'est dur. Ça, c'est dur et je pense que parfois, je ne l'ai pas fait assez vite. Voilà, je pense que parfois, je n'ai pas coupé assez vite. Parfois, je ne me suis pas séparée de quelqu'un assez vite. J'ai voulu,
pour des raisons affectives, la personne.
Pour des raisons affectives, pour des raisons aussi, bah, peut-être d'empathie un peu trop forte, et puis d'attachement, parce que les gens qui ont démarré avec moi, c'est vrai que 10 ans après, bah, y en a qui ont été peut-être moins performants, dont il a fallu que je me sépare, ou qui étaient un peu fatigués, ou qui s'étaient installés dans un certain confort.
Comment tu distingues la personne qui, il est temps de se séparer, ou il faut que je la forme, ou il est temps de l'aider à changer son état d'esprit, ou alors, en fait, non, il faut que je me fasse à l'idée, c'est pas une question de formation, c'est pas une question d'état d'esprit, c'est juste plus la bonne personne.
Ouais, ça, c'est dur, ça, c'est une question difficile. Moi, j'essaie toujours de former les gens. Hein, moi, j'avais des managers qui me disaient, Sandra, assure-toi que quand tu te sépares de quelqu'un, tu as tout fait pour lui donner les chances de réussir. Donc ça, c'est un vrai sujet, il faut toujours donner un maximum de chances de réussir. Après, si vous le faites et que ça ne marche pas pour des raisons X, Y, soit qu'il n'a pas envie, soit qu'il ne veut pas, soit qu'il n'en a pas les capacités, ben, au bout d'un moment, il faut se rendre à l'évidence. Voilà. Mais c'est vrai que c'est la chose la plus difficile à faire. Et moi, je pense que parfois, je l'ai fait, mais parfois, j'ai trop attendu. Et si c'était à refaire, ben, je prendrais des décisions peut-être plus rapides parce que voilà, parfois, ça coûtait cher. Voilà.
Tu peux nous parler de ta nouvelle société? En plus, c'est un sujet qui me passionne, l'art oratoire. Moi, j'ai galéré, j'aurais eu besoin de ton entreprise. J'ai été terrorisé à l'idée de faire mes oraux en cours quand j'avais 15, 16, 17, ouais. 18, 19. Et ça a changé ma vie d'apprendre à parler en public. D'ailleurs, je le réalisais même pas avant, en fait. C'est quand j'ai commencé à voir à quel point ça impactait mes entretiens d'embauche, ça impactait mes présentations en classe, ça impactait ma capacité à, même si j'étais pas manager au début, même on donne la parole dans une réunion de travail, dans l'entreprise, savoir mieux t'exprimer, tu gagnes des points, tu t'es plus repéré. Et ben, je dis ça pour avant que tu te présentes ton entreprise, parce que j'ai vraiment envie que les personnes qui se disent, c'est pas juste parler, c'est qu'en fait, on est tout le temps en train de parler. Et la manière qu'on a de parler, elle impacte notre carrière, elle impacte notre vie. Et donc voilà, ça m'intéresse que tu parles un peu de ton projet, qu'est-ce que tu fais pour les jeunes.
Ma deuxième histoire, enfin troisième, hein, parce qu'il y a eu Coca-Cola, ensuite Calidea, et maintenant Yapuka, donc Yapuka, voilà, c'est ce qu'on dit une fois qu'on est bien préparé. Donc, avec mon associée Valérie Falala, qui, elle, est experte RH. Donc, elle a été aux ressources humaines de nombreuses sociétés grandes et moyennes. Moi, plutôt créatrice d'entreprise. Et à toutes les deux, on est très complémentaires. Et on avait observé, et on observe toujours, que les jeunes, parfois, ne savent pas exprimer avec passion, avec structure, avec conviction, leurs projets. Alors, professionnels, bien sûr, mais leurs projets scolaires, leurs projets d'études, etc. Et donc, on s'est dit, bah, autant le prendre le plus tôt possible. On aurait pu faire ça sur les 40-50 ans, mais on s'est dit, on va le faire sur les jeunes. Donc, on a monté yapuka.org, qui en fait entraîne, est une plateforme qui met en relation des entraîneurs d'un côté avec des jeunes pour les exercer à leur entretien oral, que ce soit pour les concours d'entrée école, post-bac ou post-prépa, grande école, que ce soit pour de l'apprentissage, des stages et jusqu'au premier job, donc emploi. Et
trop
en fait,
cool.
L'idée, c'est de dire, on prend des entraîneurs qui peuvent être soit des jeunes, qui mieux qu'un jeune qui a passé tous les concours peut entraîner un autre jeune. Donc, c'est des jeunes qui sont HEC, SEC, ECP, grande école et qui ont passé les concours. Soit des coachs, soit des RH, soit des recruteurs, soit des formateurs, soit des cadres en entreprise, soit des avocats. Et tous ces entraîneurs, on les sélectionne. C'est Valérie qui les sélectionne. On les forme à la méthode que Valérie a mis en place, une méthode en 3 modules. Hein. D'abord, l'introspection, savoir se connaître. Ensuite, c'est comment j'arrive à le communiquer. C'est l'entraînement à blanc, la simulation d'entretien. Donc, sur 3 séances d'1h30, théoriquement, le jeune est prêt ensuite à dérouler son projet.
J'ai beaucoup de jeunes qui me suivent aussi. C'est dingue et je trouve ça magnifique. Il y a des personnes de 10 ans jusqu'à 80 ans qui m'écoutent sur l'audience. Une personne qui, imaginons, elle est 18 ans, qui entend là pour la première fois, je peux utiliser mon histoire, tu aurais une clé de comment la personne peut utiliser son histoire dans un entretien d'embauche, parce qu'elle peut se dire, mais je vois pas le rapport entre mon histoire et mon job, là, c'est quoi le lien, en fait?
Bah, en fait, qu'est-ce qu'on cherche quand on recrute, que ce soit dans une école ou après dans un emploi? On cherche une personnalité. Donc, en fait, on cherche à comprendre comment la personne est motivée et quelle est sa personnalité. D'ailleurs, on appelle ça des entretiens de motivation et de personnalité. Donc, on cherche pas à comprendre ce qu'il a fait, etc. On cherche à savoir comment il résonne, qui il est et quelle passion il a, pourquoi. Donc, c'est vrai que s'il a été champion de sport, quel que soit le sport, de tennis, quand on est un recruteur, on entend des choses. Alors, autant qu'il les exprime, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sait travailler, qu'on sait bosser en équipe, qu'on est tenace, qu'on est généreux, parce que en général les sports d'équipe voilà, on est ensemble dans des tournois, on partage des choses, qu'on sait être un peu résilient, qu'on sait faire face à des conflits, parce que des conflits, il y en a dans le sport. Donc, on entend tout ça. Donc, c'est une expérience à restituer. Voilà. Ou celui qui a organisé un grand tournoi, qui a organisé une kermesse, qui est allé distribuer des repas pour les Restos du Cœur.
Pourquoi il l'a fait?
Pourquoi il l'a fait? Qu'est-ce que ça lui a appris, en fait? Voilà. Mmh. Tu distribues des repas aux Restos du Cœur, qu'est-ce que ça t'apprend en plus d'être généreux et de le faire? Voilà. Et ça, c'est important parce que il faut analyser un peu, en fait. C'est pas instinctif, hein. Au début, on fait des expériences, on sait pas trop pourquoi on les fait, peut-être, ou on les fait par passion, mais après, on se dit, waouh, mais qu'est-ce que ça m'a appris? Et ce qui est important, c'est de restituer ce que ça nous a appris. Et qu'est-ce que ça a révélé chez nous? Et quelles qualités ça a fait ressortir? Et quels points ça a amélioré dans notre personnalité? Et c'est ça qui est important. Alors, si on parle pas, bah, c'est au recruteur de décoder tout ce qu'il peut y avoir derrière ce qu'on dit.
Et il peut mal décoder.
Et il peut mal décoder, etc. Alors, si on l'exprime, ben voilà, j'ai fait ce stage, ben, je me suis rendu compte de ça, j'ai appris ça, j'ai fait ça, j'ai eu des performances là-dessus. En revanche, ça a été difficile sur ce point-là. Donc, voilà comment je m'en suis sorti. J'ai beaucoup appris. Du coup, comme je comprenais pas, ben, je me suis sourcé sur Google et sur les webinars.
Est-ce que tu penses qu'un jeune qui nous écoute, qui joue beaucoup aux jeux vidéo, peut utiliser les jeux vidéo, sa manière de jouer aux jeux vidéo, dans sa manière de raconter son histoire pour un job qui aurait rien à voir avec les jeux vidéo?
Oui, moi je pense qu'on n'a pas toujours des expériences qui ont tout à voir avec les projets. Ce serait trop simple, hein, d'avoir un fil rouge idéal. J'ai fait ça, ensuite je me suis dit que je faisais ça parce qu'après je voulais faire ça. Ça n'existe pas, ce canevas-là. Donc c'est comment je récupère ce que j'ai fait, ce que je sais faire, ce que j'aime faire, pour que ça s'intègre dans un projet. Voilà. Donc ça, c'est un peu de travail, parce que c'est vrai, quand on joue aux jeux vidéo, le premier effet, c'est pas de se dire que c'est quelque chose d'intéressant à expliquer pour être chef de produit, marketing.
Oui, et voire même, la personne peut avoir honte en se disant, je vais quand même pas me mettre sur la table que j'ai passé des heures.
Alors,
à jouer.
Si c'est une addiction, c'est autre chose, hein. Mais si on joue aux jeux vidéo et que ça apporte de la concentration, de la tactique, etc., tout ça, c'est intéressant à mettre en place.
Travail d'équipe,
management. Exactement. Le travail à distance, etc. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on s'est créé, hein. Il n'y a plus qu'à, c'est pour pouvoir faire dire aux jeunes dans ce qu'ils ont fait, qu'est-ce que ça leur a apporté, comment ils l'ont traduit, qu'est-ce que ça veut dire, comment ça peut aider à intégrer une école. Parce que souvent, les gens pensent beaucoup à se dire, oui, moi, je veux faire ça, etc., etc. Mais qu'est-ce que toi, tu apportes à l'école ou qu'est-ce que toi, tu peux apporter à l'entreprise? Donc, c'est ça aussi, c'est renverser un peu la question. C'est pas uniquement je prends, c'est qu'est-ce que je donne. Encore une fois, on revient sur la générosité.
Alors, je vois facilement des jeunes là qui nous écoutent pouvoir se dire, mais moi, je ne sais rien ce que je peux apporter à l'école, à l'entreprise. Comment ils peuvent trouver
ça? Il faut qu'ils tapent sur yapuka.org et on va les aider à ça. Justement, on les aide à ça. Alors, on travaille en individuel, bien sûr, le jeune qui va choisir son entraîneur et faire cet entraînement de 3 séances d'une heure et demie. Mais on travaille aussi en B2B, ce qu'on appelle, donc en collectif, avec les écoles. Puisqu'on va intervenir dans les écoles, dans tout le parcours, on va dire employabilité, carrière, insertion.
Vous revenez plusieurs fois.
Voilà, on va revenir plusieurs fois, on va faire tout un parcours pédagogique, on va faire des séminaires de recherche, par exemple, d'entreprise pour l'apprentissage. On va travailler sur toute la recherche d'entreprise, de stage, mais aussi l'entretien. Voilà, on va aider peut-être sur tout ce qui est CV, lettre de motivation. Voilà, donc c'est vrai que on travaille aussi à la fois en B2B, quand les écoles font ça, hein. Et puis on travaille aussi en entreprise, on travaille aussi avec des associations, hein, qui ont un système d'aide à l'insertion par des parrains, avec les filleuls, etc. Donc voilà, on essaie de travailler tous ces modèles-là.
Là aujourd'hui, le modèle, c'est l'étudiant qui paye un certain prix pour accéder, ouais, à la prestation. J'imagine, quand ils ont moins de 18 ans, la personne qui paye, c'est souvent les parents.
C'est les parents, bien sûr.
Comment tu t'y prends pour arriver? Parce que du coup, il y a deux personnes à séduire.
Oui. Alors, on fait beaucoup les salons, hein. Il y a beaucoup de salons d'étudiants, que ce soit l'étudiant qui organise ou Le Monde ou d'autres. Donc, on fait des salons pour pouvoir justement... Alors, on a nos entraîneurs qui viennent et on fait ce qu'on appelle des speed training, des speed coaching, pour montrer en 10 minutes ce qu'on peut faire à l'oral, pour qu'après, les parents avec les enfants, avec les jeunes, aient envie d'acheter la prestation.
La séquence la plus classique pour toi, c'est d'abord... Le parent qui est séduit et qui convainc son enfant, ou l'enfant qui est séduit et qui convainc son parent?
Alors, c'est souvent le parent qui est un peu moteur quand ils ont 17-18 ans, c'est évident. C'est comme quand ils s'inscrivent dans des prépas, quand ils s'inscrivent dans des stages de renfort pendant les vacances, hein. C'est souvent le parent qui est initiateur. L'enfant suit avec plaisir parce que ça fait partie du jeu. Après, le parent va pas imposer, donc il faut aussi qu'on séduise le jeune. Parce que si le parent pousse, mais le jeune n'en a pas envie, c'est compliqué.
Il ne le fera pas volontiers.
Donc, j'ai envie de dire, le moteur de la décision, ça peut être le parent, mais ensuite, comme c'est l'enfant qui, enfin, c'est le jeune qui, qui le réalise, il faut que les deux soient convaincus. Voilà.
Et comment vous y prenez sur le site internet pour communiquer à deux avatars qui sont très différents?
Mais ça, c'est pas évident. C'est tout l'enjeu des APUCA. C'est essayer de communiquer à la fois aux parents et aux jeunes. Quand c'est plutôt pendant le parcours étudiant, c'est plus l'étudiant. Et quand on arrive à l'emploi, c'est le jeune diplômé. Donc, plus ça augmente et plus il est autonome dans les choix et même dans les financements. Bon, après, on essaie de se faire connaître aussi. Ces interviews, c'est fait pour ça aussi, pour que les gens aient envie d'aller sur la plateforme. Il y a beaucoup de témoignages, en fait, de jeunes et de parents sur la plateforme et d'entraîneurs, en fait. Donc, si vous allez sur le site, vous allez voir des jeunes qui vont dire « Moi, ça m'a totalement changé. J'ai eu 19 à l'oral. J'ai révélé mon talent. » D'ailleurs, on dit « Il n'y a plus qu'à révéler ton talent. » Parce que c'est vraiment ça, chez le jeune, c'est se révéler. Donc, les jeunes font faire des témoignages assez forts et assez convaincants. Les parents aussi. Parents qui parlent à notre parent en disant « C'est une super décision de faire ça. » Et puis, les entraîneurs, parce qu'ils vivent avec les jeunes et ils savent ce que ça peut leur apporter.
Ton ambition avec APUCA, c'est quoi?
C'est de développer la boîte, déjà, parce qu'on démarre depuis une grosse année. Donc, voilà, ça démarre déjà très bien. On a un taux de satisfaction de 98%. Vraiment, on est content. Puis, on a des très, très beaux témoignages. On a des mails et des SMS qui nous font à moitié pleurer, parfois, tellement c'est émouvant.
Parce que j'imagine que le jeune, au-delà de sa capacité orale, ça booste son estime de soi aussi au passage.
Ah ouais, la confiance en lui, la confiance en soi, c'est hyper important. Et c'est vrai qu'il est transformé. Quand j'ai transformé, c'est vraiment créé, il y a un changement énorme. Et c'est un très beau cadeau qu'on peut faire à son jeune. Et parfois, c'est les parents qui le font, mais parfois, c'est moi, j'en ai acheté pour mes filleuls, je l'ai acheté pour mes neveux. C'est un cadeau sympathique à faire.
Quel conseil tu pourrais donner à, par exemple, à un parent qui nous écouterait, qui aurait une forme de réussite et des enfants qui, du coup, peuvent se comparer et se dire, oula, est-ce que je vais être capable de faire ça? Et est-ce que je vois, par exemple, des gens dans mes séminaires qui sont des jeunes et qui, du coup, ont ce syndrome un peu de... Justement, on parlait des mentors. J'arriverai pas à faire aussi bien que papa ou maman et qui, du coup, au lieu d'essayer de vivre leur vie...
Ils essaient de vivre, oui.
Qu'est-ce que tu pourrais... Je sais pas si c'est un truc comme ça.
Moi, je me suis pas posé la question jusqu'à ce que quelqu'un me dise « Mais attends, c'est peut-être pas facile d'être le fils ou la fille de Jean-Claude Legrand et Sandra Legrand. » Et en fait, moi, je me suis toujours dit que... Moi, j'ai été salarié, j'ai été entrepreneur. Moi, j'en ai un qui veut être entrepreneur, l'autre non. Enfin, pas tout de suite. Et je leur dis toujours, écoutez, chacun fait sa route et chaque route est belle. Et on n'est pas obligé de faire aussi bien, différemment, etc. Voilà, chacun fait sa route, franchement. Qu'on soit peut-être inspirant ou qu'on soit vos modèles, pourquoi pas, et tant mieux. Parce que quoi de mieux pour un parent que d'être un peu inspirant pour ses enfants? Mais après, vous ferez votre... Et ce sera un beau chemin et on vous aidera à faire votre chemin. Donc, j'essaie surtout de... Moi, en fait, ils ont découvert un jour en allant sur Google qu'on parlait beaucoup, que ce soit de mon ex-mari ou moi, sur... ils ont vu les articles, les émissions de télé, etc. Et ils ont découvert ça à 12 ans. Et là, maman, mais t'as vu tout ce qu'on dit sur toi sur le gars? Et je leur ai dit oui, parce que effectivement, j'ai une entreprise, je fais de la croissance, etc. Mais je leur dis, tu sais, c'est pas parce qu'on passe à la télé et qu'on a des articles qu'on est brillant et qu'on est super bon. Il y a des gens cachés dont t'entends jamais parler et qui sont juste fantastiques. Faut leur dire aussi ce qui est la vérité, ce qui ne l'est pas, ou ce qui est de la mise en scène et ce qui est voilà. Et moi, je leur prends souvent des exemples et moi, je leur apprends à toucher à tout. C'est-à-dire que je peux très bien aller dans un hôtel 4 étoiles, mais aussi aller chez l'habitant quand je voyage. Je peux très bien.
Se rendre compte qu'être heureux, il y a plein de formes, en fait.
Exactement. On peut aller manger et dans un grand resto. Enfin, j'essaie vraiment de leur multiculture, de leur expliquer ce que c'est l'argent. Mon fils a fait un stage dans une usine Renault. Il a compris en fait ce que c'était que d'être ouvrier dans une usine.
Pour conclure la vidéo, qu'est-ce que tu aimerais leur conseiller pour qu'ils se créent la vie qui leur correspond?
Moi, je leur dis souvent, un, faites ce que vous aimez. Deux, soyez généreux. Dieu vous le rendra. Et c'est vrai, souvent. Et puis trois, j'ai parlé, exprimez-vous. C'est-à-dire qu'on peut avoir des coups de mou, on peut avoir des sujets difficiles, quels qu'ils soient, professionnels, personnels. Quand on voit ce qui peut se passer avec le harcèlement scolaire et tout, c'est une horreur. Parlez de tout. Alors, avec vos parents, bien sûr, mais aussi avec vos frères et sœurs, avec vos meilleurs amis, avec qui vous voulez, avec des psys si c'est nécessaire, bien sûr. Exprimez-vous, parce que déjà s'exprimer, c'est déjà soigner un peu le mal. Et puis,
le garder pour soi.
Voilà, et puis vous verrez que ça fait du bien d'échanger. Et puis, tout seul, on trouve peut-être pas grand-chose, et à plusieurs, on est meilleur. Voilà. Les résultats d'une équipe ont toujours été meilleurs que la somme ou la moyenne des résultats individuels. Donc, le collectif, ça a une vraie force et tant mieux parce qu'aujourd'hui, on le développe quand même beaucoup. Voilà. Et puis, au bout du bout, je leur dis, prenez du plaisir parce que la vie est belle et il faut être bien dans sa peau et prendre du plaisir dans ce qu'on fait, dans ce qu'on est et avec qui on est. Voilà. Donc, choisissez vos amis.
Merci beaucoup, en tout cas.
Merci à toi, David.
T'as une dernière chose que tu voudrais dire ou...
Bah oui, je crois que voilà, si j'ai pu donner quelques trucs et astuces, inspirer un peu, mais surtout montrer que tout peut être accessible si on en a envie, c'est vraiment ça que j'ai envie de partager. Voilà.
Où est-ce qu'on peut te suivre ?
Alors, bien sûr, j'ai un site internet, sandralegrand.com, bah, yayapuka.org, hein, où on donne quand même pas mal de choses sur la boîte. Et puis, bah, mon Twitter, hein, sandralegrand1,
LinkedIn,
voilà, je tweete pas mal, puisque j'ai la chance d'aller à beaucoup de choses et à partager. Et puis voilà, donc on tape Sandra Le.
Si tu as aimé ce podcast et ce type de contenu avec des entrepreneurs au parcours incroyable, alors j'ai une bonne nouvelle pour toi, on a créé une vidéo qui recense les 6 clés indispensables pour scaler ton business.
Donc aujourd'hui, j'ai développé tout un set de techniques pour aider les entrepreneurs que j'accompagne à bien sûr garder la foi, conserver cet optimisme de « je vais y arriver, je peux le faire, j'y crois », mais en même temps, être capable de manière, ce qu'on pourrait appeler un pragmatisme pessimiste ou le pessimiste pragmatique, c'est-à-dire voir les obstacles et les anticiper de manière le plus calme, centrée et stratégique possible. Charlie Munger a ce qu'il appelle la technique de l'inversion. La technique de l'inversion, c'est de faire presque contre-intuitivement l'opposé que de visualiser